En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Monsieur le Président de séance, mesdames et messieurs les académiciens, chers collègues, lorsque Jean Bachelard m'a fait le grand plaisir et honneur de m'inviter à participer à ce colloque en me proposant de trouver un sujet qui pourrait éclairer les questions des rapports entre la guerre et la religion dans le contexte chinois, qui est mon domaine d'études, un très grand nombre de sujets possibles me sont venus à l'esprit, bien sûr. L'un d'entre eux était celui de la guerre des Taiping, qui a déchiré le monde chinois au milieu du XIXe siècle et qui me paraît tout à fait fascinant pour différentes raisons. C'est un conflit qui, comme on va le voir brièvement, dans un moment, a été un conflit d'une très grande ampleur, causant des dommages sur une échelle tout à fait considérable et qui a aussi joué un rôle de tout premier plan dans l'accélération du déclin du régime impérial chinois et dans lequel plusieurs des mouvements révolutionnaires du XXe siècle trouvent leurs origines, sinon réelles, en tout cas revendiquées. Or, ce conflit, très bien documenté par de très nombreuses sources historiques chinoise bien sûr, mais aussi occidentale, car les Occidentaux ont joué un rôle relativement marginal, mais non négligeable, dans ce conflit. Donc ce conflit qui a été une des grandes guerres massives de l'époque moderne a été aussi une guerre religieuse par de nombreux aspects. Cependant, mon idée de départ, qui était de vous parler de la guerre des Taiping, a rapidement évolué vers un autre projet, qui est mon propos aujourd'hui, qui est de voir, en prenant pour prétexte ou comme point de départ la guerre des Taiping, les différentes façons dont les populations chinoises, aux différentes échelles de la société, ont interprété, ont fait sens de ce déchaînement de violence dans le cadre de ce qu'on peut appeler une guerre civile, même si l'historiographie préfère habituellement parler de rébellion des Taiping, mais je pense que pour un conflit d'une telle échelle, le mot de guerre civile est sûrement plus approprié. Donc comment les populations ont pu interpréter ce qui se passait et en faire sens, notamment dans le cadre d'un discours eschatologique qui, comme on le verra dans un moment, a eu plusieurs variantes, mais qui a permis aux différentes partie prenante de ce conflit, de l'interpréter, de lui donner sens, car il était tout à fait inattendu. Disons que pour les élites chinoises, c'est une guerre civile qu'ils n'avaient pas du tout vu venir, et ils ont eu beaucoup de mal à en comprendre les origines. Et le discours eschatologique leur a permis d'expliquer donc l'avènement de ce conflit et de leur donner aussi les moyens de faire face à la destruction, aux pertes humaines et au bouleversement des existences, qui était donc leur expérience quotidienne, et aussi d'envisager la suite et la sortie de ce conflit. En quelques mots, donc, les Taiping, conflit majeur et pourtant très mal connu en Occident, je le constate assez souvent chez mes collègues historiens qui ne sont pas spécialistes de la Chine, les historiens connaissent l'existence de Taiping, mais cette guerre est relativement peu présente dans les manuels d'enseignement ou dans les cursus de formation ou dans les livres d'histoire à portée générale. Et en langue française, il y a eu relativement peu de travaux sur la question. Donc quelques éléments de rappel, rapidement. Le mouvement a été fondé par un leader messianique du nom de Hong Xiuquan, petit lettré de la communauté Hakka, qui est une communauté ethnique, disons, du sud de la Chine, qui a sa langue propre. Lettré qui a passé plusieurs fois les examens pour tenter d'entrer dans la carrière mandarinale, qui a échoué et qui a été, après le deuxième de ses échecs, entré dans un état de dépression, de stupeur, pendant lequel il a eu une longue vision où il se voyait chargé par une divinité de combattre des démons qui étaient en train d'envahir la Chine. Par la suite, Hong Xiuquan a reçu de la part d'un missionnaire protestant, de façon indirecte, auprès d'un converti qui distribuait donc les tracts rédigés par un missionnaire protestant dans la ville de Guangzhou, canton, principale métropole du sud de la Chine, tract qui l'a donc familiarisé avec, de façon probablement assez superficielle, mais malgré tout, l'a mis en contact avec l'enseignement chrétien et qui lui a permis de réinterpréter la vision dont il avait fait l'expérience, et ce qui l'a amené progressivement à se considérer comme le petit frère, le frère cadet du Christ, donc envoyé sur terre par Dieu le Père pour faire advenir le royaume de Dieu et ramener l'ordre sur terre. Il a commencé à prêcher un enseignement basé sur l'interprétation qu'il avait eue de cette vision, et il s'est rapidement entouré d'autres membres de la communauté Hakka, au sein de laquelle était et toujours d'ailleurs très fréquemment pratiqué le médiumnisme, donc la possession par les dieux, donc il parle par la bouche des médiums, et plusieurs médiums se sont venus le rejoindre et ont fortement développé l'enseignement de Hong Xiuquan et l'ont emmené dans des directions nouvelles, notamment deux des leaders qui sont devenus donc très proches de Hong Xiuquan et dont l'un était le médium de Dieu le Père et l'autre le médium du Christ. Alors les interprétations dans l'historiographie, aussi bien chinoise qu'occidentale, sur le mouvement des Taiping, tendent à varier entre une interprétation surtout chrétienne, c'est-à-dire mettant au centre l'analyse, l'impact du message chrétien sur le mouvement des Taiping, et d'autres tendantes et qui sont plutôt devenues dominantes depuis une ou deux décennies, qui tentent à mettre l'accent sur l'ancrage profond du mouvement des Taiping dans la culture religieuse populaire chinoise et ses pratiques médiumniques. Quoi qu'il en soit, donc cet enseignement qui a été développé au cours des années 1830-1840 par Hong Xiuquan et son entourage ont développé une vision religieuse selon laquelle donc l'empire des Qing sous lequel il vivait et pour lequel Hong Xiuquan avait voulu un temps devenir fonctionnaire était en réalité une structure politique démoniaque, l'empereur, son entourage, ses fonctionnaires étant autant de démons, et que pour ramener la paix sur Terre, et pour Sulza utiliser le terme, donc le concept de Taiping, ce qui signifie grande paix, qui est un concept que l'on retrouve dès l'Antiquité chinoise et qui désigne une vision utopique donc de paix et de prospérité universelle, généralement associée à un message messianique. Donc Hong Xiuquan adoptait le rôle du Messie et visait à faire advenir cette grande paix en expulsant du territoire les démons qui étaient l'empereur Manchu et l'ensemble de l'appareil d'État travaillant pour lui. En 1851, le mouvement prend une forme militaire, part en campagne depuis le sud de la Chine et du fait de l'adhésion populaire très importante de nombreuses franges marginales ou en situation de difficulté, la population les rejoignent, donc viennent grossir les rangs de l'armée des Taiping qui conquiert, aidés par de brillants stratèges, conquièrent les grandes villes les unes après les autres et font leur capitale céleste dans la ville qui est aujourd'hui Nankin, donc au cœur de la région la plus dense et la plus riche de Chine, en 1853. Et partout là où ils passent, les Taiping détruisent les lieux de culte organisent les populations de manière à ce qu'elles rendent un culte exclusif à Dieu le Père. Dans un premier temps, les missionnaires et autres observateurs occidentaux présents en Chine ont été très intéressés, très fascinés par le mouvement des Taiping, espérant y voir une forme purement chinoise de christianisme, mais ils ont pour la plupart rapidement déchanté. Une petite carte pour vous montrer donc la région d'origine du mouvement, dans la province du Guangxi, dans le sud de la Chine, et en mauve, les provinces donc, très riches et densément peuplées du centre de la Chine qu'ils ont contrôlées entre environ 1853 et 1864. La guerre a été marquée par une violence extrême. Les estimations, comme toujours dans ce type de situation de guerre civile, sont extrêmement difficiles à établir avec précision, mais on parle très fréquemment d'un nombre de victimes étant dans la fourchette de 20 à 30 millions de personnes. Un grand nombre de massacres de civils, une partie importante de ces 20 à 30 millions de personnes décédées pendant la guerre l'ont été non pas du fait de batailles rangées, mais plutôt du fait de famines et épidémies directement causées par la guerre, politique de terres brûlées, destruction des récoltes, etc. Et à partir assez rapidement, à partir de la fin des années 1850 et jusqu'à la fin de la défaite finale des Taiping aux mains des armées loyalistes, la guerre dégénère en une sorte de guérilla généralisée où un grand nombre d'organisations locales, des milices, des groupes de bandits s'affilient lâchement à l'un ou l'autre camp, changent de camp très fréquemment et tournent les campagnes du centre et l'est de la Chine en des lieux d'insécurité généralisée où les lignes de front bougent en permanence, les allégeances sont toujours incertaines et les populations locales ont à souffrir de façon permanente des exactions des uns et des autres. Et voilà, et l'image ici est une des nombreuses illustrations qui ont été faites par les lettrés de l'époque pour documenter les violences faites aux populations civiles. Et l'ouvrage en question a été, l'ouvrage illustré a été compilé et a circulé dans le but de récolter des fonds, d'obtenir des donations pour permettre d'offrir une aide aux sinistrés. Alors, face au discours messianique de Hong Xiuquan et de son organisation, les élites chinoises, par quoi j'entends bien sûr les fonctionnaires de l'Empire des Qing qui luttent contre les Taiping, mais aussi toutes les élites locales, lettrés, marchands, intellectuels, etc., ont développé un discours qui, par certains égards, ressemble, en tout cas partage des points communs, un vocabulaire commun, avec celui du messianisme Taiping. Il désigne aussi les rebelles, c'est-à-dire les leaders et les soldats de les armées Taiping comme étant des démons, et il considère que la guerre, et non pas cette guerre civile, et non pas le produit d'une tension sociale qui aurait dégénéré en conflit, mais d'une calamité décidée et envoyée par les dieux pour punir l'immoralité des hommes, et donc ils le font entrer dans cette catégorie. J'ai quelques caractères chinois dans la présentation, pour ceux qui les lisent, la catégorie de Bingjie, c'est-à-dire désastre par les armes, qui est une des catégories de désastres que les dieux peuvent envoyer pour punir les hommes, sur le même plan que les désastres par les épidémies ou par les inondations ou les incendies. Ce discours, qui rend compte de la guerre dans ces termes-là, a plusieurs effets. De justifier la violence extrême pratiquée des deux côtés, donc massacre systématique de prisonniers et de civils dont l'allégeance n'est pas suffisamment prouvée. Cela explique les massacres. On considère que la liste des victimes a été préordonnée au ciel par la bureaucratie céleste et que donc les personnes qui sont mortes dans les massacres l'ont été du fait de leurs péchés accumulés, donc pour des raisons objectives et justifiables. Et cela donne aussi, évidemment, aux populations un espoir d'échapper au massacre. Et pendant toute la durée de la guerre, très nombreux sont les écrits qui circulent, qui soit donnent l'exemple de villages où toute la population aurait été vertueuse et qui aurait été miraculeusement épargnée pendant les campagnes ou les incidents militaires, ou donnant, promettant aux populations, individuellement ou collectivement, d'être épargnées s'ils peuvent s'en tenir à un certain code de morale. Donc, parallèlement à la mobilisation des populations locales sous forme de milices pour résister au Taiping et à la militarisation générale de la société, donc qui prend toute la société chinoise à cette époque-là et qui ont été bien étudiées par ailleurs par les historiens, on assiste aussi, et les deux sont évidemment très étroitement liés, sont différents aspects d'un même phénomène en réalité, on assiste à un activisme religieux de la part des élites locales en réponse à la guerre, avec des mouvements de réforme morale qu'on peut qualifier en les comparant évidemment de façon lointaine ou un peu métaphorique avec les revivalismes qui affectent aussi les sociétés européennes et nord-américaines à la même époque, des sortes de revivalismes fondamentalistes, donc qui sont très marqués pendant toute la période de la guerre mais qui continuent après elle, et aussi une communication incessante avec les dieux par l'écriture inspirée, qui est une pratique sur laquelle je vais m'étendre un tout petit peu plus en détail dans un instant. Et donc au travers de cette technique de l'écriture inspirée, on assiste pendant toute la durée de la guerre, et encore après elle, à une production absolument massive de textes révélés par les dieux, donc révélés à l'humanité, pour lui expliquer le sens des événements, le sens de cette guerre civile, et de ce qu'il convient de faire en réaction à ces événements. Donc juste un exemple d'un tel activiste qui parcourt toute la société locale à cette époque-là, Yu Zhe, qui est un lettré de la région de Suzhou, enfin, aussi en réalité, donc cette une région qui a été conquise par les armées Taiping entre 1860 et 63, donc qui passe son temps à collecter des fonds pour financer des milices loyalistes et venir en secours aux victimes. Donc un rôle que l'on assez attendu, assez classique, de la part d'un activiste s'engageant du côté loyaliste, c'est-à-dire du côté du gouvernement impérial, mais aussi en même temps une activité très intense de prédicateur, c'est quelqu'un qui va prêcher sur les marchés, qui va faire distribuer des tracts, qui engage les gens à une réforme morale et qui demande à tous ceux qui s'engagent avec lui et à tous ceux qui bénéficient de l'aide aux victimes qu'il contribue à financer et à organiser, à prendre des vœux. Voilà, ce n'est pas une simple distribution de nourriture, de vêtements, etc., les gens, de médicaments. Les gens qui bénéficient de l'aide de la part des organisations philanthropiques dont il a la charge doivent s'engager en prenant devant les divinités un certain nombre de vœux et s'engageant à se réformer moralement. Et donc aussi une diffusion très importante de textes religieux en langue populaire pour toucher un plus grand nombre possible de personnes. Alors, quelques mots sur la technique de l'écriture inspirée, dont j'ai dit qu'elle était à l'origine de la production d'un très grand nombre de textes à cette époque-là, même si cette technique est beaucoup plus ancienne. Cette technique n'est pas du tout inventée dans le cadre de la guerre des Taiping au XIXe siècle. Elle trouve en réalité son origine aux alentours du XIIe siècle. En tout cas, ce sont les descriptions les plus anciennes que nous en connaissons. La photo ici a été prise par moi-même, d'où la médiocre qualité de la photographie, sinon je prie de m'excuser, dans un petit temple qui se trouve dans un appartement, dans un gratte-ciel, à Hong Kong. La pratique est donc très courante depuis le XIIe siècle et elle reste aujourd'hui plus que jamais extrêmement courante dans l'ensemble du monde chinois, et c'est le moyen le plus courant par lequel les divinités peuvent produire des textes et s'adresser aux humains, même s'il existe d'autres formes de communication, bien entendu, mais pour ce qui est de la production des textes, cette technique, qui porte différents noms en chinois, que vous voyez ici, Fuji, Fuluan, Tiangbi, est extrêmement courante. Donc on voit ici un médium qui est possédé par la divinité, mais c'est une transe calme, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une possession spectaculaire, et qui tient un outil avec lequel elle écrit, donc ici simplement sur une table avec une fine couche de sable. On peut avoir aussi de la cendre, mais ça peut être aussi un pinceau sur une feuille, enfin, différentes techniques. Parfois, le support matériel de la divination peut être tenu par deux médiums au lieu d'un seul. Enfin, il y a toute une gamme de techniques précises. Et à côté, on a une autre personne, une assistante, qui note par écrit les textes qui sont produits par ce moyen-là. et qui sont ensuite vérifiées par la divinité. Il y a tout un processus de correction. Et ensuite, alors si c'est évidemment une adresse personnelle, c'est-à-dire la divinité s'adresse à une personne pour lui donner un conseil ou répondre à une question, la personne va garder simplement le texte. Mais si c'est, comme c'est assez fréquemment le cas, une adresse générale, le dieu en profite pour s'adresser à tous les membres du groupe ou de la communauté ou à l'humanité entière. Dans ce cas, le groupe a évidemment pour devoir moral de publier ce texte, donc ce qui se faisait couramment sous forme de papier, donc de livres gratuitement distribués dans les temples, les lieux publics, etc. Et bien entendu, maintenant, sur Internet. Il existe des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de sites où des groupes mettent en ligne les textes que leur révèlent les divinités et qui viennent s'enrichir chaque jour. Voilà. Pour les amateurs de ce type de littérature, le corpus est quasiment infini et en constante expansion. Donc les divinités qui s'expriment par ce moyen sont ce qu'on peut appeler les divinités salvatrices, c'est-à-dire qu'elles se donnent comme ayant été chargées d'une mission de la part des divinités les plus élevées du Panthéon de sauver l'humanité. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment cette dimension de créer un rapport direct avec leurs fidèles et les enjoindre à participer à un travail collectif de salut de l'humanité. Et l'inspiration eschatologique est très fréquente dans les groupes qui pratiquent cette technique d'écriture inspirée, même si la part eschatologique peut être parfois très dominante, parfois être simplement un thème parmi d'autres, ou un thème relativement en retrait par rapport à d'autres thèmes, mais on la retrouve, disons, en continu dans la production de ce type de texte depuis le XIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans le contexte particulier d'une guerre comme la guerre des Taipings, mais on retrouve dès le XIIe siècle, les premiers textes où, en fait, ont été produits dans un contexte d'une guerre, qui était la guerre d'invasion mongole, donc qui commençait à faire des incursions militaires dans le sud de la Chine, qui était encore sous la domination de la dynastie des Song. Et on retrouve par la suite des textes produits en contexte de guerre, aux différentes époques. Les Taipings n'en étant qu'un exemple particulier, mais particulièrement bien documenté et intéressant. Donc toutes sortes de textes sont révélés dans ce contexte-là. Bien entendu, des textes très contextuels, des prédictions sur le déroulement de la guerre. On va voir les dieux locaux parler à leurs fidèles dans le cadre des temples, leur disant voilà, qu'est-ce qui va se passer. Évidemment, c'est les questions que posent les gens aux divinités. Voilà. Faut-il fuir? Faut-il rester? Quand est-ce que les armées Taiping vont arriver? Que va-t-il se passer? Bon. Mais aussi, de façon plus générale, et souvent les divinités prenant appui sur ces questions-réponses très immédiates pour essayer de construire un discours plus large, des exhortations à la repentance, expliquant que cette calamité infligée par les dieux aux hommes, qui est la guerre civile, trouve son origine dans les péchés humains, et en particulier deux thèmes dominent le discours, non pas de façon exclusive, mais ce sont vraiment les deux thèmes qu'on retrouve le plus fréquemment, expliquant la colère des dieux face à l'immoralité des hommes, et qui donc justifie leur décision d'envoyer ces démons et de créer une guerre civile. Le premier, c'est la question du respect de la vie, le fait que les hommes tuent trop d'animaux, juste pour le plaisir de manger de la viande. Et donc il y a une exhortation, sinon au végétarisme total, en tout cas à un retour à un plus grand respect de la vie animale et à des mœurs alimentaires, disons, beaucoup plus modérées, en consommation de viande beaucoup moins importante. Et d'autre part, la question de la morale sexuelle. Il y a toute une avalanche de textes sur la morale sexuelle qui sont produits dans ce contexte-là, qui ne sont pas entièrement nouveaux, qui reprennent des textes plus anciens, mais qui expliquent vraiment que c'est l'absence totale de morale sexuelle des Chinois du milieu du XIXe siècle qui justifie cette situation. Et donc, enjoignant les gens à retrouver une stricte chasteté en dehors du mariage, ce type de choses. Un autre type de texte produit dans ce contexte sont les codes de loi qui rationalisent les punitions et la violence. Donc, essayer d'expliquer au-delà de l'aspect apparemment extrêmement arbitraire des massacres qui sont perpétrés de par l'un et l'autre camp, qu'il y a en réalité une bureaucratie céleste qui est toujours à l'œuvre, que les dieux sont toujours en charge, que là, c'est la. On est toujours dans le cadre d'une guerre avec ses lois et non pas d'un déferlement de violence incontrôlée. Et l'un de ces textes est le plus intéressant parce qu'il a continué à circuler tout au long du XXe siècle et on le trouve encore aujourd'hui dans les temples. Le Yuding Jinkejiyao, c'est-à-dire anthologie complète des règles d'or décidées, enfin fixées par l'empereur de Jade. L'empereur de Jade, c'est le dieu suprême du panthéon, donc c'est le chef suprême des dieux, qui a été révélé en 1856, vraiment dans le contexte de la guerre, qui a une connotation eschatologique extrêmement forte, mais qui se présente sous la forme d'un code de loi, qui est le même modèle que le code de l'empire, le code impérial, le Qing, et simplement qui inclut les vivants, les morts, les divinités, et qui prévoit, donc qui a une taille absolument, enfin c'est le Jinkejiyao, c'est épais comme ça, c'est 2000 pages, et qui prévoit très précisément pour n'importe quelle forme de transgression morale la punition que les dieux vont appliquer à la victime. Et une bonne partie de ces punitions, évidemment, consiste en tel ou tel malheur, jusqu'à la mort, que l'on peut se voir infliger au travers des faits de guerre. Et les divinités qui révèlent ces textes interviennent également fréquemment dans le conflit et sont d'ailleurs canonisées pendant et après le conflit par l'empire des Qing pour les récompenser pour être intervenus du côté des armées loyalistes. Une petite parenthèse conceptuelle sur la notion de kalpa ou jie en chinois que j'ai déjà évoqué tout à l'heure et qui sous-tend l'ensemble de cette réflexion eschatologique. Donc kalpa est le terme sanskrit donc qui est venu avec le bouddhisme, qui a été traduit en chinois par jie. Kalpa à l'origine en sanskrit désigne simplement une très longue durée de temps qui est utilisée dans le cadre de la cosmologie bouddhique indienne pour réfléchir sur le cycle de temps. Mais qui en est venu très rapidement en chinois à désigner surtout la fin des cycles de temps et donc des catastrophes mineures ou majeures qui marquent l'histoire du cosmos. Or, ce terme jie peut désigner les malheurs individuels, donc qui est lié à la rétribution morale des actes. C'est un discours qui est très clairement expliqué par tous les livres de morale chinois. Une bonne action entraîne une rétribution positive, des récompenses. Une mauvaise action entraîne une rétribution négative, des punitions. Mais Jie peut également désigner l'état général de l'humanité, qui est lié à des malheurs collectifs, et sous sa forme la plus forte, comme la fin du monde. Alors la fin du monde, elle serait bien entendu suivie par un nouveau kalpa dans le cadre de cette cosmologie cyclique. Simplement, pour les personnes concernées, pour les gens qui vivent à cette époque-là, c'est réellement la fin du monde. C'est-à-dire que la majorité des humains, sauf quelques élus, mourront par le fait donc, des armes, des épidémies, inondations, incendies, etc. Et seuls les élus pourront traverser cette fin du kalpa, cette fin de ce cataclysme final, pour pouvoir entrer dans un nouveau cycle. Et donc on voit au travers des différents sens de ce concept qu'il y a différentes dimensions de ce concept, qu'un lien très complexe entre la rétribution et le salut individuel et le salut collectif. Et c'est toute cette tension-là qui structure les textes révélés dont on parlait à l'instant et qui montre, qui explique que des péchés individuels peuvent trouver leur rétribution dans le cadre de malheurs collectifs tels que la guerre civile. Et évidemment, un axe majeur de réflexion des lettrés qui produisent ces textes, c'est est-ce que cette guerre civile, c'est vraiment la fin du monde ou est-ce que c'est le dernier avertissement avant la prochaine fois qui sera, elle, la fin du monde pour de bon. Pris dans la guerre, les lettrés hésitent vraiment entre les deux options. Ils se demandent si, est-ce qu'il y aura encore une humanité vivante le mois suivant ou l'année suivante. Après la fin de la guerre, évidemment, l'interprétation majeure était que l'humanité a survécu, mais que c'était le dernier avertissement et qu'il s'il n'y a pas maintenant, à très très court terme, un mouvement général de reprise morale de l'humanité, il y aura une nouvelle guerre civile ou une nouvelle catastrophe, cataclysme, apocalypse, qui elle sera vraiment la fin des temps. Donc, comme le temps tourne, je vais survoler la suite qui consistait en une remise en perspective de ces discours-là, donc dans le cadre spécifique de la guerre des Taiping, dans une histoire beaucoup plus longue de l'eschatologie chinoise, qui trouve ses origines Dans l'eschatologie médiévale, et même encore bien au-delà, mais pour les besoins de l'exposé d'aujourd'hui, je m'arrêterai à cette échelle de temps, donc en remontant jusqu'au 4e, 5e siècle de notre ère, où on voit un discours extrêmement répandu, aussi bien chez les taoïstes que chez les bouddhistes à l'époque, marqué par un fort messianisme, donc à la promesse de la venue d'un messie, donc souvent, pas uniquement Maitreya dans le contexte bouddhique, un certain Lirong dans le contexte taoïste, donc ils vont venir sur Terre pour rétablir la paix, chasser les démons, rétablir la paix, et donc mettre en place cette Taiping, cette grande paix, donc cette vision utopique d'un monde parfait. Donc le millénarisme, bien sûr, mais avant la venue de cette période de grande paix, une apocalypse pendant laquelle plus grande partie de l'humanité sera annihilée et seul un petit groupe d'élus seront sauvés, donc les autres seront tués par les démons. Et cette eschatologie continue à parcourir toute l'histoire chinoise jusqu'à aujourd'hui. Hein, tous ces thèmes sont vraiment d'actualité dans le discours religieux chinois. Et à l'époque moderne, on trouve une eschatologie populaire qui est assez directement issue de cette eschatologie médiévale, avec sa théorie des trois âges, disons qu'on est entré dans le troisième âge, qui est une sorte d'âge final, et donc il faut s'attendre à des catastrophes à très grande ampleur et à la fin des temps à très court terme. Et donc il faut rejoindre les groupes des élus pour pouvoir espérer être sauvé. Or, depuis le XIIe siècle, et en lien très direct avec la pratique de l'écriture inspirée, donc la révélation de textes écrits par les divinités, se développe ce que je propose d'appeler une eschatologie lettrée, qui partage certains thèmes, c'est un vocabulaire, une certaine vision du monde avec cette eschatologie médiévale qui continue à exister sous une forme populaire, mais qui a aussi des spécificités. Le messianisme n'est plus politique, il n'est plus lié à un changement de dynastie. Pour le messianisme des Taiping de Confucian, par exemple, il s'agit le gouvernement, l'État actuel est démoniaque, il faut le supprimer et créer un État qui soit moralement bon. Donc c'est un messianisme politique, il s'agit de créer une nouvelle dynastie. Or, chez les lettrés, qui sont par définition, peut-être presque par essence, loyalistes, il ne s'agit plus d'un messianisme politique. La dynastie régnante est bonne, simplement c'est l'humanité dont la moralité a tendance à se dégrader, et donc il faut que le gouvernement et les lettrés aident la société à se reprendre et à s'engager dans un processus de réforme morale. Donc il y a une routinisation du messianisme. Le messie, c'est les dieux qui parlent par l'écriture inspirée, mais ils ne sont plus présents, ils ne descendent plus, ils ne s'incarnent plus. C'est plus un messie qui descend sur terre, et donc des prophètes qui disent « je suis Maitreya, je suis Lirong, je suis le nouvel empereur », ce qui reste très courant. Et encore été observé dans les années 70, 80, 90. C'est un thème qu'on retrouve tout au long de l'histoire chinoise. Chez les lettrés, il n'y a pas cette présence du messie incarné. Le messie, c'est les dieux qui parlent, mais les dieux, voilà, ils restent au ciel et puis ils parlent par l'écriture inspirée à des milliers d'endroits ou de temples différents en même temps. Donc ils ne sont plus présents et donc ils sont routinisés. Donc c'est moins politiquement dangereux. Moins de démonologie. Au sens où, comme les démons sont envoyés pour punir les humains, les pécheurs, ils le font sur ordre de la bureaucratie impériale, donc lutter magiquement contre eux n'est plus très utile, puisqu'ils sont envoyés par une mission. Le meilleur moyen de leur faire face, c'est de se reprendre soi-même moralement. Et la fin des temps, la fin du Kalpa, donc la date d'arrivée de l'apocalypse finale, n'est pas prédéterminée comme elle l'était dans l'eschatologie médiévale, où on annonçait la date de la fin des temps à l'avance, ça pouvait être calculé. Donc dans cette eschatologie lettrée, elle n'est pas déterminée à l'avance parce qu'elle est décidée par la bureaucratie céleste, donc il y a un processus de décision bureaucratique en fonction des péchés humains. Et donc il y a un processus de négociation qui, rhétoriquement, sert à structurer tous ces textes, c'est une technique rhétorique assez efficace, où tous ces textes révélés commencent par mettre en scène une négociation au ciel, où l'empereur de Jade dit « l'humanité est vraiment trop décadente, je vais exterminer tout le monde », et une divinité salvatrice arrive en disant « non, s'il vous plaît, laissez-moi une dernière chance, je vais essayer de les réformer une dernière fois ». Voilà, les textes qui commencent comme ça, on a des dizaines de milliers dans nos bibliothèques. Et on continue à produire les textes sur construits autour de cette structure rhétorique-là. Donc, les dieux décident, mais les humains interviennent aussi. Voilà. Donc, on ne peut pas prédire la date de la fin des temps. Et ce qui est très intéressant, c'est que des textes construits sur ce paradigme-là ont été produits et ont circulé en temps de paix. Donc on a ici un exemple révélé par Wenchang, donc une de ses principales divinités, de ses mouvements de pratique d'écriture inspirée et de réforme morale. Donc le Wendy Jiujie Baojing, ce qui signifie précieux texte révélé pour sauver les hommes de l'apocalypse, révélé, texte révélé par l'empereur Wenchang, dont on voit ici une illustration, révélé au XVIIe siècle, dans un contexte de paix et de prospérité. Le discours eschatologique n'est pas un sous-produit de la guerre. C'est un produit de l'écriture inspirée et de la dynamique propre des groupes qui dialoguent avec les dieux comme ça et qui essaient de mettre en place un programme de réforme morale de l'humanité. Et donc, pour lequel la menace eschatologique est une justification pour ce besoin de réforme morale. Mais texte produit en temps de paix, donc il explique que Wenchang a été chargé par l'empereur céleste donc de sauver autant d'humains possible de l'apocalypse, en les sauvant, en les enjoignant à se réformer moralement eux-mêmes, et que les soldats démons tueront tous les autres. Et tout ça suivant un procédé bureaucratique qui est rendu objectif par l'existence d'un code pénal universel qui explique qui est puni, pourquoi. Donc ça, c'est l'édition de ce texte que j'évoquais à l'instant, dans une grande collection de textes taoïstes sur lequel je passe, mais qui comprend de nombreux, qui est publié en 1806. Donc là aussi, en contexte de paix, quoique juste après la répression sanglante d'un grand mouvement millénariste populaire, entre 1796 et 1803, et où on trouve de nombreux textes contenus eschatologiques. Or, la personne qui était chargée de l'édition, c'est pas lui qui a écrit le texte, mais qui a produit l'édition qui est inclue dans ce canon taoïste, c'est ce monsieur, Zhu Gui, qui me paraît très intéressant parce que c'est un des personnages les plus puissants de l'époque. Alors, je vous passe les détails de sa carrière, mais disons que c'est un élève modèle, un homme très brillant, qui a occupé de très hautes fonctions dans l'État impérial, qui était le précepteur du futur empereur Jia Jing, et qui donc, quand Jia Jing est devenu empereur, était vraiment l'un des hauts fonctionnaires les plus puissants de l'Empire. Et la première chose qu'il a demandé, quand en gros l'empereur lui a dit « Cher professeur, venez me rejoindre dans la cité interdite et demandez-moi ce que vous voulez », il a demandé un titre de canonisation donc pour reconnaître le dieu Wenchang qui a révélé ce texte. Alors, ce qui est très intéressant quand on voit qu'un personnage comme ça publie et édite en son nom, hein, il n'est pas un pseudonyme, il a vraiment en son nom publié ce texte, c'est qu'il y a une sorte de reconnaissance officielle pour cette eschatologie lettrée. C'est-à-dire que ce n'est pas l'image qu'on a du lettré confucéen. On a là un des plus hauts fonctionnaires de l'Empire qui distribue un texte où il dit « Les démons vont arriver pour tuer la majeure partie de l'humanité et ce n'est pas dans un futur lointain, c'est très bientôt ». Donc il y a une tolérance envers cette eschatologie lettrée, en même temps que l'État réprime dans le sang l'eschatologie populaire, y compris le messianisme Taiping. Or, les deux en viennent graduellement à se fusionner au cours du XIXe siècle, et entre l'eschatologie des lettrés et le messianisme de Taiping, entre le discours, l'interprétation religieuse de la guerre dans les deux camps, on retrouve de nombreux points communs. Donc je conclue rapidement là-dessus en disant que dans l'histoire chinoise pré-moderne et moderne et jusqu'au contemporain, je ne vous ai pas parlé du contemporain, mais ces discours-là ont beaucoup servi à faire sens chez un certain nombre de lettrés chinois de la Première Guerre mondiale, de la guerre sino-japonaise, de la guerre civile 45-49, des violences de l'époque maoïste. Donc ce discours, il est toujours présent. Donc ces discours sont très répandus, sans interruption de la période médiévale jusqu'à aujourd'hui, révèlent une anxiété latente au sujet de la fin des temps qui est toujours là, mais qui est évidemment activée en temps de guerre, et en particulier durant ces guerres qui dégénèrent en violences généralisées, comme la guerre des Taiping. Comme je l'ai dit, dans la société locale, tous les comptes se règlent par milices interposées, et personne ne peut échapper, aucun civil ne peut échapper à ces effets de violence. Mais aussi, en même temps, discours eschatologique sur la guerre comme décision divine pour punir l'humanité, transformé en moyen de mobilisation des auditoires pour des projets de réforme morale. Voilà, donc cet exposé tendait à suggérer que dans ce contexte, là, mais dans d'autres certainement aussi, la religion n'est pas seulement un facteur de déclenchement du conflit, même si dans le cas de la guerre des Taiping, ça l'a clairement été, ou d'apaisement du conflit, ça a pu être aussi le cas, dans le cas des Taiping, mais ça a également été une façon pour les personnes prises dans le conflit, même s'ils n'étaient pas volontairement, d'en faire sens, à la fois pendant le déchaînement des violences et après la fin de la guerre. Voilà. Je vous remercie. de votre attention.